Radio Patrimoine et Capital présente le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission présentée par Quentin Balourand et Cédric Decoeur.
Bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir. Salut Quentin.
Salut Cédric.
Comme chaque mois, on se retrouve pour passer une petite heure ensemble autour des grands thèmes qui forgent un petit peu la marge de votre épargne. Et ce mois-ci, on va s'intéresser à un outil qui peut bien évidemment tenir toute sa place dans votre portefeuille, même s'il est peut-être moins développé en France qu'il ne l'est dans d'autres pays. Cet outil, il est en trois lettres, c'est l'ETF, placement qui reste aujourd'hui minoritaire, mais... BlackRock nous le dit, la France, au contraire de ses voisins comme l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni, part de plus loin et donc on devrait pouvoir rattraper tout ça. Il y a des investisseurs qui disent détenir des ETF. Eh bien, il faut ajouter ceux qui, en plus, en ont, mais sans le savoir, parce que dans leur portefeuille, via l'assurance vie, via le plan d'épargne retraite, eh bien, vous pouvez avoir des ETF sans le savoir, un petit peu comme Monsieur Jourdain, Quentin.
Absolument. Et puis parmi les détenteurs d'ETF, on a aussi des néo-investisseurs hein, qui s'y sont mis depuis la crise sanitaire, qui ont été séduits par les frais réduits, la simplicité des ETF qui leur permettaient de miser notamment sur les grandes valeurs tech américaines. Il y a eu 2 ans d'euphorie et puis là, il y a un petit krach boursier qui est peut-être le premier qu'ils connaissent en tant que jeune investisseur. Donc on va les aider à traverser cette période un peu chahutée, on va dire.
Et on aura 2 invités qui nous rejoindront dans un instant. Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yeomoney, et Guillaume Berthiaud, le président de Sofidy Gestion Privée. Et puis, vous en avez l'habitude, si vous suivez régulièrement ce grand rendez-vous de l'épargne, on répondra ensuite à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire questions@capital.fr et ce sera Nathalie Coussigo-Suas, notamment notaire à Paris, qui viendra épauler Guillaume Berthiaud pour cette deuxième partie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme chaque mois, c'est le journal de l'épargne.
Le journal de l'épargne.
Et donc on se retrouve pour ce journal. Vous saurez tout de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement dans le monde de l'épargne. Quentin, avant de parler investissement risqué, place aux livrets réglementés. On commence à avoir une idée de leur futur taux.
Tout à fait Cédric, après avoir été raboté le 1er février dernier, on s'en souvient, les taux de vos livrets réglementés, donc le livret A, LDDS, le LEP, vont de nouveau être revus à la baisse le 1er août. C'est désormais assuré, car pour rappel, le rendement de ces livrets est en partie ou totalement indexé sur le niveau de l'inflation, qui est en net recul, et plus précisément sur l'inflation moyenne mesurée sur les 6 mois qui précèdent la révision. C'est-à-dire entre janvier et juin pour la prochaine mise à jour, qui sera annoncée mi-juillet pour une entrée en vigueur le 1er août. Un peu compliqué, mais on y arrive. Avec la publication des chiffres de l'inflation du mois de mars, ce qu'il faut retenir, c'est que nous en sommes à la moitié de l'équation, avec 3 mois sur 6 déjà connus.
Alors, vous avez sorti, Quentin, la calculatrice du côté de Capital, et exactement, cette savante formule, qu'est-ce qu'elle nous donne comme résultat ?
Alors, pour le livret A, qui est passé de 3 à 2,4% le 1er février, on le rappelle, c'est une nouvelle chute qui est à prévoir pour ces 57 millions de titulaires. Il pourrait être abaissé à 1,7%, tout comme le livret de développement durable et solidaire, dont le taux est toujours identique à celui du livret A. Et de son côté, le taux du livret d'épargne populaire, réservé aux épargnants à revenus plus modestes, lui doit toujours être supérieur de 0,5 points au livret A, 1,7 plus 0,5. Il ne devrait donc pas chuter à moins de 2,2%. Mais il y a de fortes chances que, comme lors des 4 dernières révisions, il bénéficie d'un nouveau petit coup de pouce de la part de la Banque de France et du ministère de l'Économie, qui le maintiendrait sans doute à un taux de 3%.
Oui, parce que cette la fameuse formule savante, elle laisse tout de même une place aux politiques, et notamment du côté du gouverneur de la Banque de France, il y a une sémantique. Hein. Si le gouverneur dit une certaine chose, le ministre peut passer outre, alors que si le gouverneur veut contraindre un peu le ministre, il faut qu'il dise autre chose, et à ce moment-là, le ministre est un peu obligé de le suivre. C'est pour dire que les formules ne fixent pas tout, la politique garde aussi la main. On continue avec une bonne nouvelle pour les investisseurs en actions. Quentin.
Oui, ça fait toujours du bien de le rappeler Cédric, quand on est ballotté par une tempête boursière, les actions restent le meilleur placement sur le long terme. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous rassure, mais l'IEIF qui publie cette année son étude sur le sujet à point nommé pour rassurer les investisseurs en bourse en quête d'une petite lueur à l'horizon.
C'est-à-dire, quel est le verdict ?
Eh bien, sur la période 1984-2024, donc sur 40 ans, ce sont bien les actions qui affichent la meilleure performance moyenne annuelle, avec 11,8%, suivi par l'immobilier parisien et les foncières. Alors, tout l'intérêt de l'étude est de proposer ce classement également à 30, 15 et 5 ans. Par exemple, depuis 2019, en prenant donc en compte le krach du Covid et la guerre en Ukraine, les actions décrochent un peu, 6,17%. Et c'est l'or qui culmine avec 11,27% de performance par an. Notons toutefois que pour nos amis auditeurs amateurs de crypto, l'étude
je te vois arriver.
ne prend pas en compte le cours du Bitcoin qui, lui, sur la période 2019-2024, affiche une hausse de 2600%. Ça fait quand même 520% de moyenne par an. Ça fait
c'est
réfléchir.
Bon, et puis un petit nouveau dans la famille des produits d'épargne.
Oui, les banques populaires et les caisses d'épargne sont les premières banques à proposer le plan d'épargne Avenir Climat, le PEAC. Un nouveau placement donc qui avait été annoncé à l'automne 2023 par Bruno Le Maire, notre ancien ministre de l'économie. Ce produit doit en principe être disponible depuis le 1er juillet 2024. Problème, aucune banque ni assureur jusqu'ici ne s'en était emparée. Petit retard à l'allumage donc, mais mieux vaut tard que jamais, et il sera désormais possible d'y souscrire dans les réseaux du groupe BPCE.
Tu nous rappelles en quelques mots comment fonctionne, enfin voilà, c'est quoi le principe de ce livret ?
Oui, bah c'est réservé aux jeunes, hein. Il peut être souscrit soit par les parents, soit par leurs enfants majeurs. C'est un produit bloqué, on ne peut pas en sortir avant ses 18 ans, et on peut aussi, si on le souhaite, le prolonger jusqu'à ses 30 ans au maximum. Pour le reste, c'est un produit hybride, avec un plafond de 22 950 euros, comme sur le livret A, mais sans fonds euros ni garantie en capital. L'épargne est investie dans des unités de compte, comme sur une assurance vie ou un PER, en actions et en obligations, mais labellisées investissement vert. Reste à savoir si ce produit durable prendra aussi son temps pour trouver son public.
Le journal de l'épargne, donc Quentin Balloran. Tout de suite, on ouvre notre dossier du mois.
Le dossier du mois.
Le dossier du mois du grand rendez-vous de l'épargne, on vous l'annonçait, concerne bien évidemment cet instrument, les ETF, la gestion passive versus la gestion active, diraient certains. Et on a deux experts pour en parler ensemble. Olivier Balteste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni et Guillaume Berthiaud, bonjour.
Bonjour messieurs.
Président de Sofidi Gestion Privée, et on compte sur vos éclairages pour nous dire un petit peu comment considérer ces ETF et d'abord peut-être voir leur succès actif, mais peut-être pas tant que ça parfois. Comment est-ce que vous expliquez que les épargnants français aient certes adopté les ETF, mais peut-être pas autant que d'autres épargnants dans le monde. Je ne sais pas qui veut peut-être commencer, Olivier.
Si vous voulez. Alors effectivement, il y a une collecte assez importante en Europe. Donc on voit qu'au niveau de l'Europe, on commence vraiment à prendre ce train ETF qui a commencé il y a très longtemps déjà aux États-Unis et qui s'est fortement développé aux États-Unis. Après, en France, on est un petit peu en retard et c'est essentiellement une méconnaissance. Lorsqu'on fait des tests de notoriété aux Français, donc sur les échantillons représentatifs de la population, vous avez aujourd'hui qu'un peu plus que 3 Français sur 10 qui disent connaître un petit peu ou très très bien le marché des ETF. Alors qu'au même moment, sur la crypto-monnaie, sur les bitcoins, par exemple, vous êtes à plus de 80%. Donc on voit que c'est moins médiatisé. Donc chez les jeunes, on voit que ça prend beaucoup plus. C'est-à-dire que les jeunes connaissent beaucoup plus les ETF que les plus anciens. Néanmoins, mais on n'est qu'à 3 Français sur 10, un peu plus de 3 Français sur 10 qui savent ce que c'est concrètement qu'un ETF.
Mais est-ce que, Guillaume, il n'y a pas aussi une question de naming ? Enfin, je suis désolé de faire un petit anglicisme, mais d'abord, c'est un mot anglais. Quand on regarde le nom de tous les produits ETF, c'est souvent complètement incompréhensible. Bitcoin, Ethereum, c'est, je ne sais pas si c'est simple ou si ce n'est pas simple, mais au moins, c'est... Il y a un vocable pour...
Oui, les acronymes, c'est jamais joli. Hein. Donc ETF, c'est pas très beau et c'est effectivement beaucoup d'anglicisme derrière. Non, mais moi, pour compléter ce que disait Olivier, c'est qu'effectivement, on manque déjà de culture financière en France. On le sait, hein. La Commission européenne avait publié un rapport en juillet 2023. On était en dessous de la moyenne de l'UE. Donc on manque de culture financière. Et puis j'ajouterais aussi quelque chose... Pour moi, qui explique le retard, c'est aussi le côté très prudent des épargnants français. On aime le garanti en capital, on aime un peu moins les actions
au
départ.
On a été biberonné au livret A,
le livret A, le fonds en euros, on aime bien la pierre. Donc ça s'explique aussi, mais heureusement ça change et c'est très bien parce que ce sont des outils de diversification importants aujourd'hui.
Est-ce que ce sont question. Alors, parce qu'on a parlé du succès relatif, mais est-ce que ça peut s'adapter à toutes les catégories d'épargnants? Est-ce qu'il y a un ressort aussi de ce point de vue-là, Olivier? Est-ce que finalement, on peut baser une stratégie d'épargne ou d'investissement?
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, sur les ETF, vous allez retrouver tout le spectre d'investissement possible, que ce soit des ETF monétaires ou quasi-monétaires, donc avec des très très faibles risques, des ETF obligataires sur les différents États et également sur les entreprises, que ce soit de l'investment grade, du high yield, et évidemment des ETF actions, avec beaucoup de, enfin, toutes les zones géographiques possibles et beaucoup de stratégies d'investissement. Donc vous pouvez faire tout de votre investissement uniquement à base d'ETF aujourd'hui.
Voilà, j'ajouterais peut-être juste qu'il faut quand même avoir en tête qu'on est sur des placements qui ne sont pas garantis en capital. Donc, il faut être en mesure d'accepter une part de volatilité. Voilà. Mais à partir du moment où, effectivement, on veut prendre un peu de risque, et comme disait Olivier, il existe aujourd'hui des milliers d'ETF, et il y en a un peu pour tous les goûts, toutes les couleurs. Mais après, attention, il faut rentrer un peu dans le détail, parce que ce n'est pas un placement qui est si simple qu'il n'y paraît.
Oui, parce que l'ETF... voilà, c'est le produit, c'est le générique, on va dire. Ouais. Et derrière, ils adressent tel ou tel sous-jacent, entre guillemets. Et on en a qui sont hyper concentrés. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver, je ne vais pas dire collé, mais en tout cas concerné par une classe d'actifs hyper restreinte. Ça peut être aussi une forme de piège.
Oui, parce qu'en fait, vous avez des ETF diversifiés sur des géographies, vous avez des ETF diversifiés du côté sectoriel, mais il faut faire attention à la fausse diversification. Justement, on est effectivement dans un ETF, c'est diversifié, oui, pourquoi? Parce que vous avez plein d'entreprises à l'intérieur, ça c'est une chose, c'est certain. En revanche, attention au type d'ETF sur lequel vous investissez. Vous en avez qui sont pondérés par capitalisation boursière. Vous en avez d'autres qui sont équipondérés plutôt par nombre d'entreprises. Et donc là, il faut faire attention parce que quand on investit par exemple sur le MSCI World, qui est un des ETF les plus, enfin c'est un des ETF les plus utilisés, c'est un indice qui est repliqué sous plein de formes d'ETF. Et donc dans cet indice, vous avez énormément de sociétés. Vous vous dites MSCI World, waouh, ça y est, je touche à tout. Mais en réalité, je crois que c'est jusqu'à 60-70% aujourd'hui de pondération américaine. Voilà, il faut quand même le savoir. On a beau avoir plusieurs entreprises, des dizaines d'entreprises à l'intérieur.
On se dit, tiens, j'investis
avec ce qui se passe en ce moment.
Et en fait, rien du tout, on est
exposé à 70%. Pourquoi? Si on l'explique très rapidement, c'est parce que vous avez des entreprises américaines de la tech qui pèsent, on le sait, énormément en termes de capitalisation boursière.
C'est vrai que la question un peu sous-jacente, c'est celle, ce que je disais en introduction, le débat entre la gestion active et la gestion passive, hein, puisque on rappelle, un ETF, finalement, c'est un fonds qui est coté en permanence, qui est géré, entre guillemets, automatiquement, alors que de l'autre côté, un FCP, c'est un gérant qui cisèle le fonds, qui fait ses choix, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a ce vrai match entre gestion active, gestion passive, et est-ce qu'on se dit que s'il y a ce rattrapage que vous évoquez tous les deux un petit peu de la part des ETF dans le patrimoine des épargnants, est-ce que ça veut dire qu'en fait la gestion active, on va dire, est condamnée, que ce sera forcément la gestion dite passive, donc les ETF qui en remporteront à terme le morceau?
Non, parce qu'effectivement, il y a match, entre guillemets. Sur les performances, il n'y a pas trop de match sur du long terme, puisqu'on sait que la gestion indicielle a tendance vraiment à surperformer. Ça, c'est assez clair. Moi, ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est le marché américain. Pourquoi? Parce que les ETF sont beaucoup plus développés et existent depuis plus longtemps qu'en Europe. Et en plus, ils ont un avantage fiscal aux États-Unis. Donc, ils ont vraiment tous les feux verts pour eux. Et effectivement, aujourd'hui, la gestion indicielle est majoritaire aux États-Unis, mais de très, très peu. C'est-à-dire qu'on est légèrement au-dessus de 50%. Et donc, on voit qu'aux États-Unis, alors qu'ils ont quand même beaucoup d'avantages, y compris fiscaux, ils n'ont pas complètement gagné le match. Donc en fait, il y aura toujours un équilibre entre gestion active, gestion indicielle, mais néanmoins, effectivement, il y a encore en Europe une part de marché relativement importante et un retard qui est en train de se récupérer, mais qui existe encore aujourd'hui. Et donc, on devrait continuer à avoir une forte progression des ETF, ce qui, à mon avis, fait du sens, hein, puisque c'est vraiment un instrument très efficient qui diminue les frais et qui, sur du long terme, est structurellement plus performant que la gestion active.
Guillaume, on va voir un match plié ou au contraire, vous pensez aussi qu'il y a une forme d'équilibre qui va finir par se trouver?
Non, pour moi, ce n'est pas un match, c'est plutôt une équipe. En réalité, c'est que c'est complémentaire. Il ne faut pas les opposer, il faut les associer, à mon sens. Effectivement, la gestion indicielle, ça a apporté, les ETF, c'est un peu moins coûteux. C'est très accessible aujourd'hui, hein, dans les contrats d'assurance vie. Ça ne l'était pas aussi hier. C'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, ça soit beaucoup plus prisé. Après, pour moi, c'est plutôt c'est le pilote automatique versus le pilote manuel. Voilà. Le pilote automatique, quand vous avez un bateau et que la mer est calme, l'horizon dégagé, effectivement, que vous mettiez un capitaine ou le pilote automatique, il ne va pas y avoir une grande différence, il ne va pas pouvoir faire une surperformance incroyable. En revanche, quand la mer commence à être agitée, qu'il y a des vagues et du remous et que c'est le brouillard, on a plutôt envie d'avoir le capitaine à bord parce qu'il va être capable peut-être de mieux manœuvrer. Et ce que je veux dire par cette analogie, c'est que je pense qu'il y a un tempo, un moment de marché pour chacun. Quand ça va très bien, qu'il n'y a pas beaucoup de brouillard, encore une fois, sur les marchés boursiers, la gestion indicielle peut très bien y répondre. En revanche, quand on commence à être dans des moments chahutés comme on est en train de connaître, je pense qu'il faut un bon capitaine.
Oui, bah justement, les vagues, le brouillard, on y est un petit peu ces dernières semaines niveau boursier. Bah, par exemple, pour des investisseurs qui n'auraient pas fait cette diversification avec des fonds actifs qui seraient uniquement en ETF, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Je ne sais pas, par exemple, s'ils étaient uniquement sur des ETF actions, est-ce qu'il faut aller sur des ETF moins volatiles, des ETF obligataires, des ETF sur des matières premières.
Alors pour compléter ce que disait fort justement Guillaume, c'est qu'en plus vous avez de la gestion pilotée sur ETF. Et là c'est ce qui vous permet de vraiment mélanger les deux. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va prendre des décisions d'investissement pour vous, qui va vous permettre aussi du coup d'avoir du recul et d'être un peu moins inquiet. On sait qu'il y a beaucoup de biais lorsque vous faites vos investissements, vos propres investissements, des biais psychologiques qui vont vous faire commettre des erreurs. Donc le fait de déléguer permet d'associer les deux. Et effectivement, alors aujourd'hui, grâce aux ETF obligataires, ou aux ETF monétaires, on va pouvoir, si on cherche, se désinvestir un petit peu. L'idée, quand même, c'est de rester exposé. On sait que globalement, sur du long terme, c'est vraiment important, c'est toujours de revenir sur son horizon d'investissement. Sur du long terme, il faut être exposé. La période récente nous l'a aussi montré, c'est-à-dire que les clients qui se seraient désexposés, qui auraient pris peur et qui auraient raté la journée du 9 avril, au moment où Donald Trump a décidé de suspendre pour 90 jours, ils perdent quand même une grosse, grosse part de la performance certainement de l'année. Et donc, il y a quand même une règle globalement en investissement, c'est qu'une fois qu'on a vu son horizon d'investissement et qu'on a fait son profil de risque et son appétence au risque, même au milieu de la tempête, il faut avoir tendance quand même à rester exposé. Donc, on peut faire évidemment des modifications d'allocation pour modifier un petit peu son paramétrage, mais l'idée, c'est quand même globalement de rester exposé, puisque lorsqu'on a des rebonds, et on a des rebonds qui peuvent être très, très violents, il faut pas rater ces journées de bourse positive.
Oui, c'est une question qui dépend vraiment de votre profil d'investisseur. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans une démarche un peu plus spéculative? Vous avez le droit de vous dire, je vais peut-être faire un bon coup, etc. Donc, il y en a qui, à l'inverse, peuvent décider de se positionner après une baisse de marché. Ou est-ce que vous êtes dans une position que nous, on voit plus avec nos clients de long terme? Parce que je rappelle que quand on est sur un fonds action ou un fonds coté de manière générale, on recommande au moins 5 ans d'horizon d'investissement. Pourquoi? C'est hyper important de le rappeler. C'est parce que 5 ans, on est capable d'absorber des cycles positifs et des cycles négatifs. Donc, quand nous, on engage des clients sur des stratégies cotées en bourse, actions ou obligations, on insiste bien sur ce sujet-là. Bon, si on commence par un cycle négatif baissier, c'est jamais très agréable. Mais il faut rester accroché et on s'accroche à l'horizon long terme. Donc voilà, c'est vraiment selon votre spécificité d'investisseur. Vous voulez jouer des rebonds à court terme, très bien, c'est une possibilité et allez-y. Mais si vous êtes dans une démarche plutôt conseiller en gestion de patrimoine, celle que nous avons au quotidien, c'est attention, rappelez toujours à nos clients, c'est long terme, ne paniquez pas, keep calm et traversez la tempête.
Moi, j'aime bien serrer entre guillemets les différents actifs pour reprendre ce que vous disiez. Se dire que quand on veut investir dans des actions très proches, on peut le faire en direct, en clair sur le CAC, etc. Finalement, des choses, des entreprises qu'on connaît. Quand on veut prendre un petit peu plus de distance, passer sur du fonds classique. Et puis quand on veut aller très au large, les marchés émergents ou autres, là, pour le coup, faire des ETF, ça vous semble un bon guide?
Moi, j'aurais plutôt dit l'inverse, justement. C'est amusant. C'est-à-dire que sur les marchés émergents, c'est encore des endroits où un gérant vraiment spécialisé va réussir à générer potentiellement un petit peu de surperformance, là où sur des marchés très développés, on le voit structurellement, la gestion active, donc il y a les études, notamment l'étude SPIVA, fait par S&P, qui montre que sur des marchés très très développés, la gestion active, sur du long terme, n'arrive pas à battre ces indices.
D'accord. Donc vous, ce
sur des
plutôt
endroits vraiment plus spécifiques,
des gérants
évidemment,
sur
une connaissance de zone, sur une manière d'arriver à traiter des opérations, avec un back-office local et ainsi de suite, là, un gérant actif pourrait arriver D'accord. potentiellement à faire un petit peu mieux. Mais voilà, donc là, on est vraiment sur des choses spécialisées. C'est vrai qu'on ne peut pas complètement opposer gestion active, gestion indicielle, même si sur des actifs cotés extrêmement liquides, la gestion active a évidemment du mal en termes de performance, dû aux frais qu'ils ont besoin d'imposer et aussi d'engager pour arriver à faire leur sélection de titres.
Ça vaut pour la zone géographique, mais aussi pour les secteurs de niche. En fait, tout ce qui est un peu niche,
Ouais, la foi, vrai spécialiste.
Vous avez voilà, quelqu'un qui veut investir, je sais pas, dans la cybersécurité, dans les choses très spécifiques, dans des petits marchés. Là aussi, je pense qu'il y a un plus pour la gestion active par rapport à la gestion passive.
Bon, un petit mot aussi, Quentin nous a un peu emmené dans la tempête boursière qui a secoué les marchés. C'est vrai qu'on a un agitateur dans le bureau ovale qui change d'avis parfois, comme de, ouais, ou souvent. Comment est-ce qu'on doit réagir? Parce que c'est vrai que vous nous disiez, là, on a aussi parfois des nouveaux clients. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on doit réagir lorsque on est confronté à un temps plus que variable et qu'il y a des allers-retours, qu'il y a des renversements, des portes de saloon, comme on dit. Enfin, c'est quand même compliqué quand on a décidé de franchir le pas de l'investissement action, qu'il soit en gestion active ou en gestion passive d'ailleurs. Hein, et puis que, voilà, et qu'on s'en prend une. On se dit, non, en fait, finalement, c'était pas pour moi, on ressort tout de suite. Enfin, voilà, on peut faire des erreurs. Comment vous faites pour un peu amariner, pour reprendre votre métaphore nautique, enfin voilà, pour essayer de dire non, prenez un peu de mer calme et ça va passer.
Ouais, moi j'ai une technique personnellement, moi je mets un petit mouchoir dessus, j'évite d'aller regarder quand je sais que ça a pris un peu le bouillon. Mais encore une fois, j'en reviens à votre objectif. Si vous êtes sur du long terme, et que vous avez été prévenu justement de ces possibles variations, vous restez accroché parce qu'on vous l'a expliqué, vous êtes long terme. Voilà, donc c'est pas évident, ça demande de la pédagogie, mais en fait, il faut rappeler une chose, c'est que les marchés cotés, ça monte, ça descend, et c'est normal, d'accord? Donc bien entendu, on est tous ravis quand ça fait que monter ou que ça commence par monter, surtout quand on vient d'investir, mais si ça baisse, il faut rappeler encore une fois, c'est la normalité d'un cycle boursier. Voilà, donc ensuite, si vous êtes un autre type d'investisseur plutôt spéculatif, voilà, là vous pouvez investir et en profiter.
Mais les épargnants français, on sait très bien, ils sont averses au risque et asymétriques dans leurs attentes. Hein, et donc, c'est pas facile. Faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, c'est ça?
Exactement.
Ce qu'on essaye aussi de faire dans ces émissions.
Exactement, c'est ce que nous, on essaye de faire au maximum. C'est-à-dire qu'on est surtout essentiellement en gestion pilotée. C'est-à-dire qu'on a la main pour le compte des clients, mais ce qui n'empêche pas, et c'est normal, que des clients s'inquiètent et des clients nous appellent. Donc, ce qu'on a mis en place, par exemple, concrètement, là, avec l'épisode qu'on a actuellement, c'est qu'on fait un point régulier, donc quotidien, de marché qui est disponible pour nos clients. Ils ont sur leur application vraiment ce qui s'est passé la veille, ce qu'on va suivre sur la journée. Et c'est pas, on surréagit pas. C'est là qu'on va pas changer les allocations de manière quotidienne, évidemment, parce que en plus Donald Trump peut changer d'avis plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment la chose à ne pas faire. La vraie difficulté, c'est d'arriver à extraire du bruit ambiant des tendances relativement fortes. Mais par contre, on accompagne et on explique, parce que ça, c'est très rassurant pour les clients. Ils se rendent compte comme ça qu'il y a effectivement un pilote et quelqu'un qui suit les investissements pour eux et qui va leur expliquer ce qui se passe, pourquoi le marché réagit de telle manière ou de telle autre. Et ça, donc, on a vraiment mis en place quelque chose de spécifique sur la période actuelle, sur lequel on fait des commentaires vraiment quotidiens pour accompagner les clients et les rassurer par ce côté pédagogique, tout simplement.
Et comment vous percevez, oui, cette période? Est-ce que ça a été un moment un peu plus tendu que d'autres? Est-ce que vous avez eu plus d'appels, de contacts de vos clients sur ce mois en particulier?
Non, alors il y a vraiment deux catégories de clients. C'est-à-dire que les clients qui nous ont rejoints depuis un certain temps, ils ont connu notamment les deux années 2023-2024 de performance positive. Donc ils savent que sur les marchés, lorsqu'on est là sur du long terme, on arrive à avoir une performance positive. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est normal, c'est pour les clients qui nous ont rejoints plus récemment, notamment en voyant ces performances positives-là, et qui commencent par une séance de baisse. C'est exactement ce que vous disiez. Lorsqu'on investit, ce qui est très important, c'est son horizon d'investissement. Donc, on est là pour du long terme. Mais c'est vrai que quand on commence par une séance de baisse, on commence par se dire, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que c'était vraiment le moment? Est-ce que j'aurais pas dû attendre? Sachant que personne ne sait exactement à quel moment les marchés vont baisser ou vont monter. C'est toujours plus facile après coup. Et donc, ces clients-là, il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut leur rappeler qu'ils sont venus avec un projet d'investissement, un projet d'épargne sur du long terme, et remettre les choses en perspective avec les baisses qu'on a pu voir et qu'on est en train de voir actuellement depuis le début de l'année.
Ça crée du doute et c'est normal. Après, on en parlait un petit peu ensemble avant. C'est que pour ceux qui sont investis depuis un certain temps, il y a quand même eu par le passé d'autres zones de turbulence assez proches. Il y a quand même eu le Covid, il y a eu guerre en Ukraine, inflation. Ça fait beaucoup de choses et c'est vrai que il y a quand même aussi une forme d'habitude de certains investisseurs aujourd'hui qui commencent, donc finalement les Français commencent aussi à se faire un peu à la volatilité, et tant mieux. Et ensuite, je complète, enfin, c'est exactement ça, c'est, il faut sortir du bruit ambiant, ça monte, ça descend pour des raisons très précises. Nos amis côté outre-Atlantique, et notamment Donald Trump, dit beaucoup de choses et ça fait varier les marchés. Mais la question qu'il faut se poser, parce qu'on est quand même en mesure de donner des conseils peut-être d'arbitrage à nos clients dans ces cas-là.
Oui, parce qu'il y en a qui peuvent se dire, en fait, finalement, c'est marché action. On va faire un peu une généralité, mais le marché action, finalement, n'est pas fait pour moi. Je vais tout remettre sur de l'IMO, par exemple. Oui, ça va résonner chez vous, chez Sophie aussi.
Il y en a peut-être qui réalisent que, finalement, ce n'est pas fait pour eux. Et bon, dans ce cas-là, bah, on le sait assez rapidement. Mais sinon, la vraie question, c'est, quand on est encore une fois, on en revient à l'horizon de placement long terme, parce que tout repose là-dessus, hein, et l'action, c'est avant tout un placement long terme, c'est est-ce que les perspectives de générer de la performance sur les 5 prochaines années sont toujours réelles sur les actions sur lesquelles je suis investi? Bon, bah, a priori, si c'est la réponse est oui, eh ben on est en mesure de dormir tranquille.
Eh bien voilà quelques éléments à voir autour de toutes ces questions liées aux ETF et puis à ces mouvements de marché qui, bien évidemment, peuvent vous concerner. Mais il faut vraiment garder une vision long terme, vous l'avez rappelé. Et puis, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, prévoir d'investir régulièrement sur les marchés. C'est aussi, il y a maintenant de plus en plus, je ne sais pas, peut-être chez Yomoni, des formules d'abonnement hein, qui permettent, comme on gère son mobile ou sa box Internet, se dire, tiens, je mets 30 ou 35 euros par mois ou 50 euros par mois. Et puis, c'est investi automatiquement et parfois en haut, parfois en bas.
C'est un vrai conseil qu'il faut donner. C'est-à-dire que les clients qui ont mis en place un versement programmé justement pour épargner sans se poser de questions de manière régulière, l'intérêt du versement programmé, c'est de pouvoir justement investir tout le temps, y compris pendant les séances de baisse, pour arriver à baisser en fait le prix d'entrée globalement sur le marché. Il ne faut surtout pas prendre peur à ces moments-là et retirer son versement programmé. Tant qu'on avait une épargne possible, disponible tous les mois, il faut la garder, sinon on perd l'intérêt vraiment du versement programmé. Et c'est parfois un réflexe qu'ont les clients en disant, il faut absolument que je fasse quelque chose, donc je vais commencer par couper mon versement programmé. Mais on retire en fait tout l'intérêt du versement programmé, qui est d'arriver aussi à investir sur des moments un petit peu plus de creux de marché.
C'est l'erreur à ne surtout pas faire, et c'est surtout le meilleur tips, si on veut y aller avec ceinture bretelle sur les marchés, c'est versement programmé, ou si vous avez une grosse somme d'argent, vous n'avez pas envie de la découper. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez les contrats d'assurance vie quasiment aujourd'hui proposent un investissement progressif, c'est-à-dire vous avez 50 000 euros à mettre sur votre contrat d'assurance vie. Vous vous dites, je vais lisser un petit peu mon entrée sur les marchés. Vous mettez 50 000 euros sur votre fonds en euros. Et ensuite, vous décidez avec votre conseiller si vous voulez les investir sur 6, 8 mois, 10 mois.
Et dans cette période... Comme ça, c'est réglé, c'est investi.
Et dans cette période de volatilité, on fait ça avec quasiment 100% de nos clients. On leur dit, sauf s'ils souhaitent faire différemment, mais on ne voit pas à très court terme ce que ça va faire. Il peut y avoir du haut et du bas très rapidement. Et ben, on fait ça en investissement progressif sur 6 mois. Et comme ça, on lisse les effets de marché.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Olivier Malteste pour Yomoni et Guillaume Berthiaud pour Sophidi Gestion Privée. Vous restez avec nous, Guillaume ?
Avec plaisir.
On va répondre bien évidemment à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez sur question@capital.fr.
Vos questions, nos réponses.
Dernière étape, entre guillemets, de ce grand rendez-vous de l'épargne, sacro-saint rendez-vous où on répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, hein, question@capital.fr. Et deux experts qui sont là pour vous répondre. Guillaume Berthiaud qui est resté avec nous pour Sophie dit gestion privée. Et on accueille Nathalie Coussigou-Suas. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Merci d'être au rendez-vous notaire à Paris. Et on commence avec une question que nous envoie Marilyn, qui vient de partir à la retraite et elle souhaite souscrire une assurance vie en pensant à la transmission de son patrimoine sans imposition en cas de décès. Elle nous précise, Marilyn, avoir 64 ans et vouloir conserver son PER, et elle se demande quelle stratégie vous pouvez lui recommander dans le contexte actuel, Guillaume.
Mais écoutez, oui, Marilyn, vous avez raison de penser à l'assurance-vie si vous pensez à la transmission. Donc, l'assurance-vie, et si vous avez raison de penser à l'assurance-vie aussi, si vous voulez placer de l'argent pour vous, pour la retraite. En fait, l'assurance-vie, c'est un best-seller de l'épargne en France, et c'est pour des bonnes raisons. C'est que ça sert autant pour soi, pour épargner et pour utiliser son capital, notamment à la retraite, mais c'est également intéressant en termes de transmission. Ça, c'est la première chose. Donc oui, c'est intéressant d'y songer très fortement. La deuxième chose, c'est que vous avez un PER, et c'est très bien parce que c'est complémentaire du PER. Hein. Donc, le PER permet aussi d'épargner pour sa retraite, bien sûr, et vous pouvez sortir en capital ou en rente. Donc, vous pourrez très bien, par exemple, choisir de garder du capital disponible en assurance vie et pourquoi pas sortir en rente sur votre PER. Par exemple, il y a plein de stratégies possibles autour de ça. Et sachez quand même au passage que le PER est également intéressant en termes de transmission. C'est un peu différent que l'assurance vie, mais c'est quand même assez proche. Donc, vous êtes sur la bonne voie.
Donc, c'est bien ouais, de ne pas opposer les produits. Au contraire, de panacher.
Ils sont extrêmement complémentaires.
Un petit peu son patrimoine.
Le deuxième niveau de question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que ça va dépendre de votre profil d'investisseur, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie. Parce que le premier niveau de réponse, c'est est-ce que je fais de l'assurance vie. Honnêtement, on déconseille rarement à quelqu'un de faire l'assurance vie. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment j'alloue mes capitaux à l'intérieur de mon contrat.
Bon, c'est vrai qu'à 64 ans, on va peut-être être moins offensif qu'en début de carrière, entre guillemets. Mais bon, chacun son goût. Hein.
Oui, mais je nuance souvent ce propos parce que pour moi, ce n'est pas qu'une question d'âge. Vous pouvez être âgé et avoir envie de sauter en parachute et vous pouvez être jeune et ne pas oser monter dans un arbre. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est votre profil d'investisseur et quand même votre surface patrimoniale. Oui. Effectivement, si vous êtes âgé et que vous avez une surface patrimoniale qui vous permet tout juste de répondre à vos besoins, dans ce cas-là, effectivement, pensez à sécuriser. Après, pour des gens qui ont plus de patrimoine, heureusement, ils continuent à prendre du risque, quel que soit l'âge.
On enchaîne avec une question de Franck. Bonjour, je suis marié sans enfant, mais mon épouse a, elle, deux enfants d'un premier mariage. J'aimerais qu'à mon décès, mon appartement lui revienne et qu'à son propre décès, il soit transmis à mon neveu et donc pas aux enfants de son épouse. Quelle est la meilleure solution pour organiser cette double transmission en respectant mes volontés, nous demande Franck.
Oui, alors là, Franck, c'est une question à laquelle on est souvent confronté parce qu'on voit bien l'idée. Hein. Si Franck venait à décéder sans testament, eh bien, c'est son épouse qui hériterait de lui automatiquement, sans droit de succession d'ailleurs, et au décès de l'épouse, ça reviendrait directement aux enfants de l'épouse, privant ainsi les neveux de Franck de tout droit dans sa succession. Donc, il y a trois possibilités, mais tout dépend de ce qu'il compte faire, s'il compte ou non avantager sa femme. Le droit donne plusieurs possibilités à Franck, sachant, il faut le savoir, c'est une singularité de notre droit français. Figurez-vous, quand une personne décède avec un conjoint et sans enfant, eh ben son conjoint, il est dit héritier réservataire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il a droit à 25% d'office de la succession, automatiquement. Donc là, Franck, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a trois choses. Soit par un testament, en disant « j'institue légataire universel mon épouse ». En revanche, il y a une distinction sur l'appartement. Par exemple, on peut opérer un démembrement. On peut dire « je lègue l'usufruit à mon épouse », c'est-à-dire le droit viager, d'y habiter, de louer et de percevoir les loyers. En revanche, au décès de l'épouse, c'est les neveux qui héritent totalement de l'appartement. Une difficulté, c'est-à-dire qu'il faut prévoir, si les neveux sont nus propriétaires, qu'ils devront quand même continuer à assurer les grosses charges. Imaginez qu'il y a un ravalement, oui, il faudra que ce soit les neveux qui les prennent en charge. Donc peut-être organisé dans le testament, soit que ça serait l'épouse qui les prend en charge, soit en l'assortissant d'une assurance vie pour que l'épouse puisse assurer les charges de cet appartement ou l'assurance vie au profit des neveux pour qu'ils puissent assurer les charges. Donc ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité beaucoup plus souple, mais qui est moins sécurisante pour Franck, c'est de faire ce qui s'appelle un legs résiduel. C'est-à-dire de dire, je lègue tout à mon épouse, simplement à son décès, si elle n'a pas jugé bon de vendre l'appartement parce que peut-être qu'elle en avait besoin, eh bien cet appartement qui sera donc intact, je veux qu'il revienne à mon neveu. C'est ce qu'on appelle un legs résiduel. Mais ça, c'est laissé au bon vouloir de l'épouse parce qu'effectivement, si elle a besoin...
Elle peut avoir tout mangé.
Elle peut avoir tout mangé parce qu'elle en aurait eu besoin. Mmh. Mais en revanche, elle ne peut pas le transmettre. Donc voyez, entre deux mots, il faut choisir le moindre parce que si il lègue l'usufruit à son épouse versus la nue propriété à ses neveux, donc qui serait déjà propriétaire, mais avec un usufruitier qui serait son épouse, l'épouse, elle pourra jamais vendre le bien si elle en a besoin. Elle est en quelque sorte soit condamnée à y rester, soit louer le bien. Mais c'est possible, le droit permet à Franck d'avoir cette possibilité.
Juste, vous évoquiez le fait de pouvoir payer, subvenir à l'entretien de ce bien-là. Si Franck dit il y a une assurance vie qui est là, comme une porte pour la soif, pour les neveux autres, c'est possible de limiter limiter l'utilisation de cette assurance vie à l'entretien de l'appartement, ou là, entre guillemets, c'est au bon vouloir des neveux qui peuvent très bien décider bien de taper sûr. Dans la caisse pour partir en vacances?
Bien sûr, tout à fait, à charge d'affecter aux travaux. D'accord. Et puis le reliquat leur reviendrait. D'accord. Et sachez que l'assurance vie, c'est quand même, si les versements ont été faits par Franck avant ses 70 ans, c'est quand même un régime fiscal extrêmement favorable pour les neveux.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut flécher neveux, cette assurance vie.
Ben voilà. Mais bien sûr, on peut, d'accord, comme un testament ou comme un legs, faire des fléchages, et effectivement, c'est tout à fait possible. Et puis aussi, s'ils recouvrent l'appartement au décès de la veuve, ben, ils ont intérêt à ce que ça fonctionne. Puis de toute façon, s'il y a un syndic, état, si les travaux ne sont pas payés, eh ben, le syndic, au final, finira par mettre l'appartement en vente, puisqu'il dispose de ce qu'on appelle un super privilège, un privilège légal pour leur permettre de recouvrer les charges non payées. Oui. Mais il y a des possibilités pour Franck, en effet.
Voilà donc votre réponse, Franck. Question de Corinne à présent, Guillaume. 58 ans, elle gagne le SMIC et elle vit en HLM. Elle voudrait améliorer un peu sa situation au moment de sa retraite et éviter de devenir un poids pour ses enfants. Et elle se demande qu'est-ce qu'on lui conseillerait entre une assurance vie et un PEL ?
Bien déjà, effectivement, c'est une très bonne chose donc de penser à épargner et de le faire le plus tôt possible, hein, je le rappelle, même avec ses propres moyens. Hein, le meilleur allié pour se constituer un patrimoine, ça reste le temps. Donc, une fois qu'on a décidé
vous
d'investir...
Vous voulez dire qu'à 58 ans, elle aurait dû y penser avant ?
Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il vaut mieux... C'est toujours le bon moment de commencer. Voilà. Et le plus tôt possible. Mais parfois, on fait avec ses moyens et c'est bien normal. Et donc, quand on décide de commencer à épargner, effectivement, Corinne, vous posez la question entre une assurance vie et un PEL. Là, je vous répondrai encore une fois plutôt l'assurance vie. L'assurance vie, pourquoi ? Parce que c'est plus souple que le PEL. Vous allez pouvoir sortir des capitaux et en remettre plus facilement parce que le PEL, c'est un plan. Alors, je rappelle, hein, le PEL, au départ, c'est un plan d'épargne logement. Il a été détourné de son objectif principal qui était d'épargner en vue de se créer des droits pour avoir un crédit plus favorable. Bref, bon, oui. Ça fait longtemps qu'on l'utilise plus pour ça. Aujourd'hui, le PEL, c'est 1,75% de rentabilité. Avec l'assurance vie, on peut quand même prétendre à mieux. Donc, l'assurance vie, plus souple. Un PEL, si vous voulez sortir une partie, vous devez tout casser. Donc, ce n'est pas souple. Et puis, en plus, avec l'assurance vie, vous allez pouvoir penser également à la transmission et avoir des avantages. Hein, ces fameux abattements avant 70 ans. Vous avez 58 ans, vous pouvez largement y prétendre. Donc, vous pouvez, encore une fois, faire beaucoup mieux et beaucoup plus de choses grâce à l'assurance vie avant de commencer par le PEL.
C'est vrai que le PEL a été un peu tué par la grande phase de taux extrêmement bas où c'était plus du tout intéressant d'avoir les prêts bonifiés.
Oui, mais la question est quand même judicieuse parce que le PEL, il y a encore quelques années, offrait 2,5%, voire 3%. Il y a des anciens PEL qui sont conservés par des clients de certaines banques qui ont été ouverts il y a très longtemps. Et tant que vous ne le clôturez pas, vous gardez le taux. Donc mais le PEL, ça. Attention, il faut bien regarder le taux qu'on a.
C'est un contrat, on rappelle. Donc exactement. Le taux qu'on a fixé au départ...
Il est figé. Ça coûte très cher à certaines banques. Hein. Il y en a qui sont encore à
6-7%. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi nos auditeurs et les de capital qui ont des vieux PEL et que la banque appelle avec une offre super alléchante pour fermer son vieux PEL, surtout ne cédez pas au chant des sirènes. Il n'y a pas de petit intérêt. Si la banque appelle, c'est exactement. Qu'elle a priori intérêt à ce que vous le fermiez.
On enchaîne avec Magali. Bonjour, avec mon mari, nous avons un patrimoine immobilier déséquilibré. 400 000 euros pour moi, 800 000 euros pour lui. Il envisage de me faire une donation de deux biens d'une valeur totale de 225 000 euros pour équilibrer nos patrimoines et amorcer la transmission à nos enfants. Mais en cas de divorce, que deviendrait cette donation ? Serait-elle remise en cause lors de sa succession ? Devrais-je payer des droits de mutation ? Alors, au moment de la donation, si nous étions encore mariés, maître ?
C'est une très très bonne question que pose Magali et une sorte à la fois de protection de Magali et d'organisation du patrimoine. Qu'est-ce qu'elle nous dit Magali ? C'est qu'a priori on va considérer qu'ils n'ont que des enfants communs, parce que sinon ça sera encore une autre histoire. Mmh. Ils n'ont que des enfants communs et son époux, il a 800 000 euros de patrimoine versus 400. Donc il se dit, je vais te faire une donation pour équilibrer notre patrimoine. Et puis aussi pourquoi ? Ce que nous dit Magali, c'est que derrière il y a une idée de transmission aux enfants. Pourquoi ? Alors bien sûr, il ne faut pas le faire à contre-temps, ce que je vais vous dire, parce que sinon le fisc, l'administration fiscale serait bien, elle aurait le droit de requalifier ça en avantage fiscal, en fraude fiscale et en abus de droit. C'est-à-dire qu'en fait, ce faisant, le mari de Magali va lui transférer une partie de son patrimoine, de sorte que lorsqu'il déjà elle est plus protégée, et lorsqu'ils vont donner à leurs enfants communs, ils vont bénéficier chacun des abattements. Vous savez qu'on a 100 000 euros d'abattement par enfant et par parent, tous les 15 ans. Donc, ça va permettre de lisser les abattements et les tranches. Donc, c'est intéressant fiscalement quant à la répartition du patrimoine lors de la donation. Sauf que, ce faisant, Magali se pose une question, mais est-ce que cette donation, si on vient à révoquer, à divorcer, est-ce qu'elle serait révoquée ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, depuis la loi, une loi qui a été votée maintenant il y a plus de 21 ans, la loi du 26 mai 2004, les donations de ce qu'on appelle bien présent, c'est-à-dire je te donne ce bien-là, entre époux, elles sont irrévocables. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, même s'il y a un divorce, la donation, c'est fini, on ne peut plus revenir dessus. D'accord ? Donc, elle n'aura plus rien à payer. Mais sachant, petite précision, c'est qu'à l'occasion de cette donation, eh ben, il va y avoir des droits de mutation entre époux. Vous savez peut-être que lorsqu'on hérite de son conjoint, on est complètement exonéré de droits de succession parce qu'il n'y a plus de droits de succession entre conjoints, comme d'ailleurs entre partenaires pacsés. Mmh. En revanche, quand on donne de son vivant un bien, là, il y a des droits. Il y a des droits de donation, ce qu'on ignore parfois, parce que, somme toute, l'opération est rarement faite, je vais vous dire pourquoi. Donc, il y a une franchise fiscale à l'occasion de la donation de 80 724 euros, c'est-à-dire que sur les 220 000, il va y avoir une franchise, et une fois déduit aux 220 000 les 80 000 euros d'abattement, il va avoir des droits de 20% à payer au Trésor public.
Donc, sur les 140 000 et quelques.
Il y a plus malin à faire, c'est-à-dire plus malin qu'une donation, mais qui va revenir au même, vous allez voir. Pour éviter ces droits de mutation, eh bien en fait, on va pouvoir aménager le régime matrimonial de Magali et de son époux. Et en fait, son époux va apporter à une société d'acquêt les biens, en indiquant d'ailleurs qu'en cas de divorce, il n'en ferait pas reprise. Comme ça,
pour
ça,
revenir, pour à, revenir la de, à la situation que vous évoquiez auparavant.
C'est-à-dire, sauf qu'on évitera tout à fait légalement les droits de mutation à titre gratuit, puisque dans ce cas-là, c'est un avantage, c'est considéré, ce n'est pas considéré comme une donation fiscalement. Donc, vous voyez, il y a des petits trucs à faire plutôt qu'une donation qu'on fait rarement. Un aménagement du régime matrimonial dont les conditions ont vraiment été assouplies depuis 2019, où le mari de Magali va apporter à une société d'acquêt ou à une communauté, que sais-je, eh ben, les biens pour qu'en fait, elle en ait la moitié de ce qu'il veut.
Ça veut dire changer de régime.
Changer ou aménager, c'est pareil.
En fait, oui. Changer, mais aménager. Sauf que s'il y a des enfants dans l'histoire, puisqu'il y en a visiblement... Il y aura juge aux affaires familiales.
Non, parce que justement, il y a une réforme le 23 mars 2019 qui permet maintenant, effectivement, d'aménager le changement ou la modification du régime matrimonial. S'ils sont majeurs, ils ont effectivement un droit de regard, ils ont le droit de s'opposer, auquel cas il faudra aller devant le juge aux affaires familiales. S'ils ne disent rien, eh bien effectivement, l'aménagement suivra son cours.
Eh bien, donc, voilà comment aménager au mieux, effectivement, cette répartition. Mais c'est bien d'y penser.
C'est vrai que ça paraît un peu complexe. Alors, ce qu'il ne faut pas faire en matière familiale, c'est qu'il ne faut pas faire des usines à gaz où plus personne n'y comprend rien. Il faut faire quelque chose de simple, d'une part. Bon, là, ça paraît un peu subtil, mais somme toute, c'est relativement simple. On arrive au même résultat en payant 10 fois moins cher, d'une part. Mais aussi, il ne faut pas que ce soit requalifié en abus de droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'administration fiscale dise « Non, mais attendez, mes petits amis, vous êtes bien gentils, mais du coup, à l'occasion de cet aménagement du régime matrimonial, c'était pour donner à vos enfants et permettre de bénéficier des abattements à la fois de papa et de maman. Donc, il faut
le mini-abus de droit, quoi.
Voilà, le mini-abus de droit.
Principalement.
On a le droit de le faire, mais avec précaution, en respectant des délais. Et puis après tout, ce n'est pas vraiment un abus de droit parce qu'elle aura quand même, il faut le justifier, elle aura quand même l'usufruit, elle pourra donner... Enfin bon, il faut quand même l'expliquer au regard de l'administration fiscale.
Voilà donc quelques conseils. Question de Stéphane Guillaume. Ses parents âgés disposent d'un patrimoine important et ils sont deux enfants. Il a une sœur, il a 5 enfants des revenus modestes et ses parents ne l'aident pas, ce qui tend un peu les relations. Et du coup, il se pose 2 questions. Si l'un de ses 2 parents décède et qu'ils ont fait une donation au dernier vivant, est-ce qu'il a un moyen légal d'obtenir tout de même un petit peu d'argent. Et puis, peuvent-ils choisir, via un testament ou une clause bénéficiaire d'assurance vie, de favoriser certains petits-enfants au détriment d'autres, voire de le déshériter, lui ainsi que sa fille cadette ?
Mais écoutez, oui. Alors Stéphane, pour la première question, si l'un des 2 parents décède et qu'ils ont fait une donation au dernier vivant. Alors, il y a souvent, c'est ambigu ce terme, c'est pas nécessairement parce qu'il y a une donation au dernier vivant qu'on va nécessairement ne rien toucher dans la succession lorsqu'on est enfant. Et maître, n'hésitez pas à me compléter, mais ça va dépendre surtout de ce que va retenir le conjoint survivant comme option. Hein. Donc en fait, une donation au dernier vivant, ça ouvre des droits pour le conjoint survivant. Et c'est vrai qu'en fonction de ce que retiendra comme choix le conjoint survivant, il se peut qu'il y ait ou non du capital pour les enfants. Donc voilà pour la première question. Et ensuite, peuvent-ils choisir via un testament ou une clause bénéficiaire d'assurance vie de favoriser oui, on peut favoriser. Hein, tout n'est pas exactement égalitaire dans une succession. Vous avez ce qu'on appelle une réserve héréditaire et une quotité disponible. Ces deux termes, qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'on ne peut pas vous déshériter complètement sur le plan civil, sur le plan successoral, mais on a une petite part qu'on peut allotir à plus, voilà, un autre héritier et donc avantagé. Mais il y a des limites à respecter. Si on excède cette part réservataire, on est en droit en tant qu'héritier de lever la main et de dire non, je n'ai pas eu ma réserve.
Je me suis fait gruger.
Et ça dépend en plus du nombre d'enfants.
Absolument. Hein.
C'est l'article 913 qui donne la limite. En l'espèce, là, Stéphane, il dit qu'il a une sœur. Donc en fait, ce qu'on appelle sa part de réserve, les parents, normalement, s'ils ne faisaient aucun testament, Stéphane et sa sœur auraient chacun, je ne vous parle pas du conjoint, mais la moitié. Ce que pourraient faire les parents, c'est effectivement que le patrimoine revienne un tiers à Stéphane et deux tiers à sa sœur. Ou ce tiers possible, au lieu de moitié-moitié, revienne aux petits-enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Donc, moi, ce que je pense, c'est que comme il y a une donation au dernier vivant, et effectivement, la donation au dernier vivant, contrairement à l'idée répandue, c'est les enfants héritent quand même. Sauf que, souvent, ce que fait le conjoint survivant, et là, gageons, c'est ce qu'il va faire, surtout si les relations sont relativement tendues, il va opter pour la plus forte des options permises par la donation au dernier vivant, je vous la fais courte, c'est la totalité du patrimoine en usufruit et un quart en nue propriété, c'est-à-dire concrètement, dès lors qu'il a l'usufruit, il peut dire aux enfants, oui, vous héritez, mais en fait, vous ne toucherez votre part que lorsque je le voudrais, soit lorsque je décéderai, soit lorsque je déciderai de vendre. Alors, effectivement, il faudra l'accord des enfants qui, dans la plupart des cas, le donnent, parce qu'à ce moment-là, ils ont leur part, mais pas avant. Donc, à la limite, effectivement, il y a des cas où les enfants, nous, les notaires de France, on en reçoit souvent des enfants d'une précédente union, où ils viennent dire, je ne comprends pas, j'ai vu à la télé qu'on ne pouvait pas déshériter ses enfants, mais là, en fait, ma belle-mère ou mon beau-père me dit, tu ne touches rien. Et c'est la loi. C'est-à-dire qu'ils ont leur part, mais elle est en quelque sorte gelée. En revanche, ils ont des garde-fous, ils peuvent demander un certain blocage des capitaux pour que le conjoint ne recueille les intérêts ou les revenus, vous voyez. Mais effectivement, ils peuvent très bien ne rien toucher. Donc ça peut, en plus, on peut diminuer les droits de Stéphane, soit par testament, et on peut faire les deux. Donc en lui léguant que sa part de réserve. Et puis pour l'assurance vie, c'est encore plus fort, si je puis me permettre, parce que l'assurance vie, dès lors que ce n'est pas fait à contre-temps et dès lors que les primes ne sont pas manifestement disproportionnées par rapport aux facultés du souscripteur, on peut effectivement donner une grosse partie à ceux que l'on désigne, soit que ça serait uniquement la sœur de Stéphane, soit seulement l'un des petits-enfants. C'est possible.
Et j'ajouterais une chose, c'est que quand on est nu propriétaire, en plus, non seulement on touche rien, mais on peut être amené à devoir payer des impôts. C'est-à-dire qu'on peut être amené à, si on reçoit une somme importante, ça a une valeur, la nue propriété, dans la transmission, bien sûr. Et si ça excède les abattements, vous retrouvez à devoir payer des droits de succession.
Mais alors, il faut quand même dire que le droit de l'enregistrement et des l'administration fiscale, il est prévu dans le Code général des impôts, dans ces cas-là, effectivement, qu'on puisse payer, et Dieu merci, parce que le droit de l'enregistrement, ce n'est pas un droit farfelu, qu'on puisse payer avec un petit intérêt, mais qui n'est pas élevé par rapport à ceux d'une banque, qu'au décès, en fait, de l'usufruitier.
Ah oui.
Sinon, on n'en sortirait plus, on n'apprendrait rien et il faudrait en plus payer. Donc, ça serait la mort du pêcheur, excusez-moi. Donc, effectivement,
tout ça,
dans ces cas-là, on renvoie aux 6 mois du décès du beau-père ou de la belle-mère, parce que c'est souvent ça dont il s'agit, ou du père ou de la mère.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu aux questions des auditeurs et des téléspectateurs de Radio Patrimoine et des lecteurs de Capital. N'hésitez pas à nous écrire. Et chaque mois, bien évidemment, nos spécialistes viennent vous répondre question@capital.fr. Merci beaucoup Guillaume Berthiaud, donc, pour Sophie Dix, gestion privée, et Nathalie Coussigou-Suas, notaire, donc, à Paris. Une toute petite virgule et on découvre la une de Capital.
La une de Capital.
Et comme chaque mois, pour terminer ce grand rendez-vous de l'épargne, on découvre ce que vous allez trouver, ce que vous allez pouvoir aller courir, chercher dans vos kiosques. Qu'y a-t-il à la une de Capital, Quentin ?
Eh bien, à la une, dans vos kiosques, on aura un dossier succession dans Capital, 10 pages pour transmettre à moindre coût. Intéressant. Et puis, on aura aussi une grande enquête sur le réarmement de l'Europe. On se demandera si la France va ou pas en profiter.
Eh bien voilà, c'est à découvrir dans tous vos kiosques, le dernier numéro de Capital. Merci Quentin.
Merci Cédric.
On se retrouve le mois prochain.
Avec plaisir.
Pour un nouveau grand rendez-vous de l'épargne sur Radio Patrimoine en collaboration avec Capital.
C'était le grand rendez-vous de l'épargne, une émission présentée par Quentin Balorant et Cédric Decoeur. À retrouver sur Radio Patrimoine, Capital et en podcast sur toutes les plateformes.